Alors nous allons continuer à parler de la prière aujourd'hui, pour la troisième fois, c'est le troisième message que nous faisons sur le sujet. Et si je devais tenter de résumer ce que nous avions dit dimanche passé, je dirais déjà, je commencerai par dire que prier change quelque chose. Parce que notre Dieu qui est proche de nous, nous entend et agit en conséquence. Puissent nos prières simplement rejoindre le cœur de Dieu. J'aimerais repartir aujourd'hui avec vous d'un des enseignements principaux de notre Seigneur Jésus dans ce qui est appelé traditionnellement le sermon sur la montagne que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, qui couvre trois chapitres d'enseignement. Ce qui caractérise cet enseignement de Jésus, c'est que souvent quand on lit un texte biblique, on se dit qu'il y a quand même des choses très obscures, très compliquées à comprendre. Et parfois c'est vrai, parce qu'il faut y ajouter des dimensions sociologiques, contextuelles, culturelles. Ces textes sont millénaires. Qu'est-ce que ces textes ont à nous dire pour nous aujourd'hui? Par contre, il y a d'autres textes dans l'Écriture qui sont extraordinairement clairs, qui ne demandent pas d'explications particulières, mais qui nous dérangent profondément parce qu'on les comprend trop bien et qu'il n'y a pas moyen de ne pas les comprendre. Le grand écrivain américain Mark Twain, je pense qu'avoir déjà dit ça, mais avait l'habitude de dire « Moi, dans la Bible, ce qui me pose problème, ce ne sont pas les textes que je ne comprends pas, ce sont les textes que je comprends trop bien. » Et je crois qu'ici, nous allons être en plein dans ces textes que nous comprenons trop bien. Matthieu 7, versets 1 à 12. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Je trouve ça très comique, hein, indépendamment du reste. Je trouve ça l'image très parlante. Hypocrite, se faire traiter d'hypocrite par Jésus, ça fait très mal par contre. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, nous sommes donc mauvais, embêtant, hein, nous qui nous considérons souvent comme étant extraordinairement bons. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste ou qui est dans les cieux donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi, donc la loi de Moïse, et les prophètes, donc les prophètes dans l'Ancien Testament. Loi de Moïse et Ancien Testament qui sont aussi paroles de Dieu, hein, même pour les chrétiens, je le rappelle quand même au passage. Alors comme pour toute lecture biblique, il y a au moins deux questions qu'il faut se poser en permanence quand on aborde un texte. Et donc, en l'occurrence ici, est-ce que je comprends ce que Jésus dit? Autrement dit, est-ce que je comprends ce qu'il attend de moi? Ça c'est la première question. Et puis la seconde, que dois-je faire pour obéir à ce que Jésus me demande? Comment faire? Parce que je peux très bien comprendre ce qu'il me dit, mais me dire dans un même souffle, juste après, comment est-ce que je fais pour mettre ça en pratique? Est-ce que je dois essayer plus fort de faire ce que Dieu me demande? Est-ce que ça repose uniquement sur moi? Dois-je me forcer à faire ce que Dieu demande? Rien de tout ça. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Car même si cela peut ne pas apparaître à première vue, le secret de l'obéissance, donc de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'après Jésus, c'est la prière, justement. La prière se trouve au centre de ce que Jésus dit. Autrement dit, ce que Dieu vous demande d'accomplir, si vous essayez de le faire tout seul, vous n'y arriverez pas. Mais commençons par le commencement. Toute relation comporte deux aspects. Dès que vous rentrez en interaction avec un être humain, et a fortiori avec Dieu, l'aspect demande et l'aspect réponse à la demande. On est tout le temps dans ce mécanisme-là, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Toute relation humaine repose sur ces deux pôles. Et c'est d'autant plus vrai dans une relation où l'amour est présent. Parce que par définition, si quelqu'un que j'aime demande quelque chose, je vais au minima me mettre à disposition de sa demande. Je vais envisager de répondre positivement à sa demande. Ceci étant dit, il est une donnée que nous ne devons pas négliger, une donnée qui est au cœur de toute relation comme Dieu la conçoit, c'est que donner, donc répondre positivement, ce n'est pas imposer. Autrement dit, en voyant l'autre que j'aime fonctionner ou vivre, je peux me dire en moi-même, il a besoin d'un certain nombre de choses qu'il ne demande pas, qu'il ne possède pas encore. Ce n'est pas pour ça que je vais pouvoir faire irruption dans sa vie pour imposer ce dont il a besoin. C'est pour cette raison, je crois que contrairement parfois à ce que nous pensons, Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin si nous ne lui demandons pas. Déjà parce qu'il y a un travail, un chemin à faire pour que, prière aidant, justement, relation à Dieu aidant, nous comprenions ce dont nous avons vraiment besoin. Parce qu'entre ce que je pense avoir besoin et ce que Dieu pense nécessaire à mon bien-être et à ma maturité et à mon salut, il y a un monde souvent entre les deux. Alors le prétexte, parfois avancé pour ne pas demander à Dieu quoi que ce soit, c'est de partir du principe que comme il sait tout, ce qui est vrai, puisqu'il est Dieu, s'il ne savait pas tout, il ne serait pas Dieu, à quoi ça sert de lui demander quoi que ce soit ? Pourquoi lui partager mes besoins alors qu'il sait quels sont ses besoins ? Si c'est ça notre conception de la prière, on va avoir directement un gros problème, c'est qu'on ne demandera plus rien, mais à 90%, même là encore si nous n'en sommes pas conscients tout le temps, notre vie de prière relationnelle à Dieu, ce sont des demandes qu'il veut ou pas rencontrer dans la relation à lui. Donc si on se dit « ça ne sert à rien que je lui demande quoi que ce soit parce qu'il sait quels sont mes besoins, il a qu'à me le donner ce dont j'ai besoin », il va se passer une chose, pas de son côté à lui mais d'une autre, c'est qu'on va arrêter de prier. Notre vie de prière va être aussi captivant que lire le bottin de téléphone. Je pense que là, il faut déjà percevoir un danger. Alors pour nous convaincre de ce que je viens de dire, il suffit que nous prenions l'enseignement de Jésus concernant la prière. Toujours dans le sermon sur la montagne. Ses disciples, ses 12 plus proches, s'approchent de lui un jour en tant que maître juif qui enseigne la parole de Dieu, lui disent « Maître, apprends-nous à prier ». Et Jésus ne va pas donner un cours théorique sur la prière, il va dire « Voilà comment vous devez prier ». Et il va donner quoi ? Ben, le Notre Père. Déjà, même en Israël, personne n'appelait Dieu Père. D'accord ? Le Dieu Père, il n'y a que le Fils qui puisse le révéler, donc Jésus. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il répond à ses disciples Jésus. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples, autrement dit les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou ceux qui, surtout, adorent d'autres dieux qui ne sont pas le vrai Dieu. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a encore dans certaines religions aujourd'hui des... On répète des mantras à l'infini, des ritournelles comme ça pendant parfois toute la journée, en espérant que Dieu va répondre à de telles prières. Jésus dit, il ne faut pas copier ce genre de processus parce que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez rentrer en relation avec Dieu. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, ou qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, aussi du mal que l'on peut commettre. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça, c'est la réponse de Jésus. Dans cette prière, alors tout le monde connaît le Notre Père, en tout cas en Occident, plus ou moins. De moins en moins, puisque l'arrière-plan chrétien a tendance à collapser, pour ne pas dire à disparaître totalement. Et on peut, et c'est ça le danger, on peut se servir de cette prière comme d'une ritournelle. Et c'est ce qu'on fait souvent. On répète ça dans la liturgie de l'Église, notre père qui est Dieu, sans comprendre la profondeur de ce que Jésus est en train de nous dire. « La première remarque que j'aimerais faire sur cette prière, c'est qu'on passe dans le même souffle du règne de Dieu, que ton règne vienne, que ton royaume s'installe sur la terre, c'est ça la demande de Jésus, c'est ce qui devrait occuper notre temps, nos relations humaines et notre prière, que ton règne vienne, j'aspire à ce que ton règne vienne sur la terre, et dans un même mouvement, donne-moi mon pain quotidien. Autrement dit, mes amis, tout est spirituel. Le matériel, donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui. Et le spirituel, que ton royaume descende sur la terre. Il faut donc prier pour que le royaume de Dieu s'installe sur la terre et il faut prier pour que Dieu nous donne de quoi nous substanter au quotidien. Ça veut dire une chose, mes amis, c'est que pour Jésus, tout est prière. Tout est spirituel et tout dépend de Dieu. On est parfois soufflé, à juste titre, par exemple, quand on voit dans l'Évangile la multiplication des pains. Jésus a enseigné pendant 3 jours de suite une grande foule de milliers de personnes. Et à un moment, à la fin de la 3e journée, donc le soir tombe, et Jésus se rend compte donc, que ces gens aussi ont un besoin matériel. Ils ont entendu des messages très spirituels concernant Dieu pendant 3 jours, et là, ils meurent de faim. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Et Jésus... Les disciples de Jésus disent « Maître, il faudrait renvoyer ces gens dans la ville pour qu'ils aient acheté de quoi manger parce qu'ils vont tomber de leur sus, hein, comme on dit à Bruxelles. » Et Jésus leur répond « Vous allez vous-même leur donner à manger. » Et ils disent « Mais attends, il nous reste combien 3 pains, 2 poissons ?» Je ne sais jamais en fait. « C'est 3 pains, 2 poissons, 5. » Vous voyez, je suis encore... 5 pains, 5 points, je fais confiance à ma femme, 5 pains, 2 poissons. Et puis Jésus prie. Et ils partagent les 5 pains de poisson, et ces milliers de personnes ont de quoi manger, et il y a même des restes. 12 paniers de restes. Et on se dit, waouh, quel miracle incroyable, c'en est un. Mais quelle est la première chose que Jésus a fait? Il a remercié Dieu pour le peu qu'il avait. Il n'a pas commencé à râler en disant, t'es un peu lourd là, ça fait 3 jours que je m'esquinte à les enseigner, ils sont morts de faim, et moi il me reste 5 pains et 2 poissons. Ou 5 pains, 2 poissons. Je n'imprimerai jamais celle-là. C'est... Jésus a compris une chose, c'est que tout devait passer par sa relation avec son Père. Même ce que je vais manger aujourd'hui. Alors, dans nos pays occidentaux, où d'une certaine manière, l'opulence règne encore, profiter, ça ne va pas durer, hein, malheureusement. Ça a quoi surprendre quand même, je dépends de Dieu. On a dans notre façon de fonctionner en Occident, je parle pour les chrétiens bien sûr, en particulier, on a cette fâcheuse tendance à se dire, moi j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Si j'ai envie d'avoir à manger, je prends ma voiture ou je me tape le magasin et j'achète quoi. Donc en quoi est-ce que c'est encore pertinent de dire que j'ai besoin de Dieu pour me nourrir au quotidien? Bien, on se trompe si on pense que ça ne nous concerne plus. Car la prise de conscience, et c'est ce que nous disait ce psaume d'entrée, c'est la prise de conscience que tout vient de Dieu est la raison pour laquelle le chrétien rend grâce à Dieu, par exemple, avant chaque repas. Normalement. Je dis bien normalement. Je ne suis pas là quand vous passez à table. Mais même si vous priez, et croyez-moi, c'est un piège dans lequel on tombe, vous pouvez prier avant chaque repas et en faire une sorte de ritournelle vidée de sa substance. Je te remercie pour le repas que tu me donnes, Seigneur. Sois béni. Amen. Et on se rue sur la bouffe. Sans véritablement encore avoir conscientisé que si j'ai quelque chose sur la table, c'est grâce à Dieu que ce quelque chose existe. Parce que ce que je mange, il l'a créé. Parce que si ce que je mange est le fruit de mon travail, c'est parce qu'il me donne la santé pour être capable de travailler, etc. Quel que soit le bout par lequel vous prenez l'équation, vous dépendez de Dieu. Que vous en soyez conscient ou pas. Donc chaque fois que je passe à table, demander mon pain quotidien, remercier pour mon pain quotidien, je me donne à moi-même une occasion de me rappeler de la bonté de Dieu envers moi. Donc manger, juste avant, c'est une occasion, une vraie occasion de prier. Parce que j'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais je n'ai pas le temps de prier. » Ok, ben, c'est au moins, prends ce temps-là, quoi. Chaque repas est une occasion de prier, et de reprendre conscience de la réalité, la seule, la vraie, tout vient de Dieu, et il aime donner ce qu'on lui demande. Ça va, je ne vous ai pas encore perdu? Ça va, vous accrochez à votre teint? Ok. Vous me dites. Hein. Tout est spirituel. Ce qui signifie aussi, et c'est fondamental, et d'ailleurs c'est le sens de ce grand commandement qui est déjà contenu dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme et ton prochain comme toi-même, c'est qu'on ne peut pas séparer le rapport à Dieu du rapport aux autres. Vous ne pouvez pas dire « Ah, moi je passe mes journées à genoux dans la prière devant Dieu » et être en dessous de tout dans vos relations humaines. No good, pas good, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que vous êtes dans votre relation à Dieu, vous devez au minimum l'être dans vos relations aux autres. Et ça signifie une chose que l'on loupe souvent, je pense. En tout cas, moi, que j'ai loupé pendant des années. Et je ne dis pas que c'est installé aujourd'hui, hein, je suis honnête avec vous. Hein. La prière est la bonne façon pour deux êtres d'interagir. Ce qui signifie qu'il faut que Dieu soit dans la relation que j'entretiens avec l'autre. Et pour comprendre ça, on va reprendre notre passage, si vous le voulez bien. Je vais relire les quelques versets. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Une grande promesse, hein. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Mais il faut chercher. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il redit cette phrase, enfin, d'une évidence folle, hein, me semble-t-il. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Donc vous remarquez encore au passage avec quelle facilité Jésus passe ici de ce que nous attendons des autres à ce que nous attendons de notre Père qui est aux cieux. En fait, pour le dire autrement, c'est très simple. Quand vous priez, par exemple, pour les besoins de quelqu'un, « Seigneur, mon voisin n'a pas l'air d'aller bien. Je te prie pour lui. Aide-le dans ces circonstances. » Dieu vous dit, « c'est super, hein, je suis d'accord, il faut vraiment en prendre soin. Si tu bougeais ton pet de ta chaise et que tu allais sonner chez ton voisin pour prendre soin de lui. » Nous sommes, la plupart du temps, souvent la réponse à nos propres prières. Donc Jésus enseigne ici clairement que ces deux relations, nous et Dieu et nous les autres, se situent sur une même ligne. D'autres termes, notre relation spirituelle avec Dieu et notre relation humaine avec les autres sont une seule et même dimension, puisqu'à présent, nous qui sommes chrétiens, nous faisons partie du royaume de Dieu, qui est donc au venir, mais il est déjà là en substance, et le royaume étant au milieu de nous, nous ne pouvons surtout pas établir des bulles pour séparer les êtres. Donc une bulle qui consistera à nos rapports avec les humains et une autre bulle qui consistera avec nos rapports avec Dieu. Tout ceci redit encore une chose fondamentale. Si vous devez retenir un truc de ce que je dis ce matin, c'est ça. C'est que la prière doit habiter également notre rapport aux autres. Je vais le dire plus simplement. Même si vous voyez votre meilleur ami toutes les semaines pendant plusieurs heures, ce qui serait normal si c'est votre meilleur ami, vous aurez toujours plus de temps pour prier pour lui que pour être avec lui. Et souvent, vous serez plus efficace en priant pour lui qu'en étant avec lui. Parce que vous intégrerez dans la relation avec lui une troisième personne qui est Dieu lui-même, qui rentrera dans l'équation. Donc la prière doit devenir plus présente que notre propre présence aux autres. Elle doit s'incarner en nous. L'autre, même s'il n'en est pas conscient, ne doit pas seulement avoir vous en face de lui. Il doit avoir Dieu en vous en face de lui. Et c'est dans ce domaine-là, dans ce sens-là, que vous serez efficace. Alors vous dites, oui, mais là, sa présence comment, sous quelle forme? Ben, de l'écoute et surtout de l'amour. L'amour de Dieu en vous dont l'autre a tant et tant besoin. Nous ne pouvons pas adopter une attitude envers Dieu et une autre envers les hommes. Ça, c'est impossible. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est pas possible. Parce que si nous avons ce distinguo, il se passe une chose, et Jésus le dit, nous sommes des hypocrites. Nous devenons hypocrites. Nous faisons semblant. Vous savez, dans beaucoup d'églises, quand après le culte ou avant, vous demandez, des gens vous disent « Comment tu vas ?» La plupart des gens répondent « Oh, mais ça va très bien, tu sais. » En fait, ils ne vont pas spécialement bien. Pourquoi ils vous répondent « Ça va très bien ?» Parce qu'ils n'en ont rien à faire, en fait, de savoir si vous allez bien ou pas. C'est une formule. Mais ça, ce n'est pas possible quand on est en relation avec Dieu. L'autre a le droit, à ce moment-là, si vous lui posez la question, de dire « Ça ne va pas du tout. » Et indirectement, « J'ai besoin de toi pour que ça aille mieux. » Nous sommes des hommes, pour ceux qui ont reçu la foi, nous sommes des hommes et des femmes du royaume, des hommes et des femmes unifiés, et notre personnalité doit imprégner tout ce que nous faisons. Je reprends les versets 9 et 10. « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Alors, ce verset est en fait très interpellant aussi, me semble-t-il. Jésus expose ici une réalité humaine que tous ses auditeurs de l'époque et de notre époque aussi peuvent comprendre. C'est que les parents aiment leurs enfants. Enfin, je pense qu'il faut le dire très vite quand même, mais soit, on va le dire. Parce que c'est ce que Jésus dit. Vous êtes mauvais, vous pensez que vous êtes bon, et c'est pour ça que vous êtes des méchants, parce que vous n'êtes même pas conscient vous-même que vous n'êtes pas bon. Mais même vous qui êtes mauvais, si votre enfant vous demande quelque chose, vous allez lui donner. Parce que vous êtes des parents... Et vous aimez donc vos enfants. Ce sont des gens imparfaits, bourrés de défauts, mais qui vont quand même donner ce qui est bon à leurs enfants. Alors bien sûr, reste l'exception éventuelle, et l'histoire en a connu. Il y a des gens, même des parents, qui donnent des horreurs à leurs enfants, hein, et qui vont effectivement donner un serpent à la place d'un morceau de pain. Ça existe, mais c'est quand même pas la norme. D'accord ? Si Jésus prend cet exemple des parents, c'est parce que Dieu est Père. Dieu est un Père parfait, parfait dans son amour. Autrement dit, si moi je suis capable en tant qu'être imparfait de donner ce qui est bon à mes enfants, Dieu, lui en tant que Père parfait, donnera certainement, systématiquement, ce dont ses enfants ont besoin. Par contre, il y a quelque chose que Jésus envisage. Jésus a toujours été exaucé. Pourquoi ? Parce qu'il était un fils parfait, justement. Qui faisait tout le temps, en permanence, ce que Dieu lui demandait de faire. Il était totalement dans l'obéissance à Dieu. Il n'avait pas de volonté volutive, autrement dit. Sa volonté, c'était de faire ce que son Père lui demandait. Mais ce que Jésus nous dit aussi, c'est que qui est mieux placé qu'un père de famille pour comprendre les lois qui gouvernent la prière ? Parce que c'est ce qu'un père, même qui ne croit pas en Dieu, fait sans même s'en rendre compte. Combien de fois un père est-il obligé, dans l'intérêt de ses enfants, de les décevoir dans leurs demandes, parce que celles-ci sont farfelues ou nocives pour eux ? Un bon père va dire non. Voilà. C'est aussi bête que ça. Il dira non. Ce n'est pas bon pour toi, donc c'est non. Combien de fois, à cause de sa plus grande expérience et de sa connaissance, voit-il ce que ses enfants ne voient pas et ne comprennent pas, en tout cas encore ? Donc, ce qui signifie que la prière n'est pas une directive que nous donnons à Dieu, « Donne-moi ça, papa !» Elle est plutôt la demande d'un petit enfant qui reconnaît que son père sait beaucoup mieux que lui ce qu'il lui faut. Mais le fait demeure. Il y a une puissance extraordinaire dans le fait de demander, dans le simple fait de demander. Il y a une puissance qui se cache dans cette notion de demande. La puissance contenue dans une demande est tellement forte qu'elle nous fait même parfois nous sentir mal à l'aise. Quand vous promenez, on va essayer d'être franc un tout petit peu. Je sais qu'on l'est tout le temps, hein, transparent, enfin oui, je sais. Hein. Mais imaginez, vous marchez sur le trottoir et un malheureux qui tend la main pour avoir des thunes parce qu'il crève de faim. J'ai faim, connaissez, on en voit de plus en plus. J'ai faim. À 20 mètres, vous savez très bien qu'il vous reste, par exemple, un billet de 20 euros et c'est tout ce que vous avez. Ben, le gars, il meurt de faim, donc il n'en a rien à foutre que vos derniers billets, ce soit un billet de 20. À 20 mètres, vous allez changer de trottoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous dit rien, mais il exprime une demande. Et cette demande vous rend mal à l'aise. Et c'est pour ça que vous changez de trottoir. Donc une puissance dans le fait de demander. Et si vous avez encore un doute, pour ceux qui ont un chien, avez-vous déjà essayé de manger un sandwich au roast beef devant le chien de la maison? Alors ça devient encore pire s'il met sa patte sur votre cuisse, alors ça c'est mort. Il va partir avec votre sandwich. Mais lui a compris qu'il y a une puissance extraordinaire dans le fait de demander à quelqu'un qu'il sait qu'il aime, parce que le chien sait que vous l'aimez, forcément. Quand ce genre de situation se produit, vous êtes tout simplement en présence d'une des forces fondamentales de l'univers. Donc, ce que je viens d'énoncer en quelques mots, Jésus le relate, nous en parle, nous l'enseigne pour nous aider à comprendre justement la puissance dans la prière. Parce qu'il sait que le danger de notre vie de prière, c'est de ne pas prier du tout, ou de mal prier, ou de commencer à demander des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu dit dans sa parole. Et il nous dit ça aussi pour que nous comprenions que la prière, ça doit être l'évidence, même si c'est toujours un combat, ça doit être l'évidence de nos vies. Vous ne priez pas, vous n'êtes pas de relation avec Dieu. Ben, je ne vais pas le dire autrement. Je peux dire que Dominique est mon meilleur ami, si je ne lui parle jamais, il sera en droit de me dire, heureusement que je suis ton meilleur ami, qu'est-ce que ce serait si je n'étais pas ton ami du tout? Donc c'est pour cette raison que Jésus continue dans son raisonnement, il passe des hommes méchants à son père. C'est quand même un peu surprenant. On va reprendre ces versets-là. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce que enseigne la loi et les prophètes. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples juifs, c'est qu'il l'enseigne d'une manière différente, mais ce qu'il enseigne, c'est ce que disait déjà l'Ancien Testament. Et au moment où Jésus est sur cette planète, a enseigné les hommes pendant 3 ans, la réalité de ce qui l'entoure, c'est que les hommes, même ceux qui se disent religieux et obéissent à la loi de Dieu, ils ne vivent pas ça. Vous passez votre temps à l'église et ne jamais faire ce que Dieu vous dit. Donc ici se trouve exprimé donc le besoin le plus fondamental de l'être humain, son besoin d'influencer positivement la vie des autres. Alors comment peut-il faire ça? Eh bien c'est simple, en priant, en demandant à Dieu. Écoutez, allez, ça ne vous est jamais arrivé, quand vous aimez quelqu'un, de voir la situation de ce quelqu'un et sa situation est catastrophique. Et vous aimez ce quelqu'un, donc sa situation vous touche, vous en pleurez, ça vous rend malade. Mais vous ne savez rien faire. Vous n'êtes qu'un être humain, vous n'avez pas accès à son cœur profond. Vous n'avez pas accès à son centre décisionnel. Vous ne savez pas la plupart du temps ce qu'il faut faire pour l'aider. Si vous arrêtez là, ben c'est bien, vous aimez votre ami, vous aimez votre frère, vous aimez votre famille, vos enfants, mais vous n'êtes pas efficace. Vous voulez vraiment que quelque chose change dans la vie de l'autre, priez. Priez pour lui, priez pour elle. Parce que si vous aimez cette personne, croyez-moi, Dieu l'aime 1 milliard de fois plus que vous. La prière est le seul chemin sûr pour que le bon que nous pouvons accomplir dans la vie de l'autre s'accomplisse vraiment. Donc si nous nous contentons d'aider, de ne compter que sur nous-mêmes, la plupart du temps, croyez-moi, nous ferons pire que mieux. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de donner et non d'imposer. Parfois on impose son amour, je t'aime, je veux t'aider, et on va faire des dégâts incommensurables. Je n'ai pas imposé mon amour, je n'ai pas imposé ma foi à l'autre, mes objectifs, mes souhaits pour sa vie, aussi bon et généreux soit-il. Mais à l'offrir comme un don de ma vie et de la présence du Christ dans celle-ci. Je peux m'offrir moi dans ma présence. Je ne peux pas imposer aux autres d'être heureux. Je ne peux pas les imposer de suivre Dieu, un pasteur qui parle, de ne pas prendre de mauvaises décisions. Tout ça, croyez-moi, j'ai essayé. J'ai essayé. Mais je peux demander à Dieu de le faire au travers de ma vie, qui est justement une vie de prière. Donc, notre confiance en Dieu est la seule chose qui rende possible le fait de traiter les autres comme ils devraient être traités, fais à autrui ce que tu aimerais bien qu'on te fasse, faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Donc vous voulez mettre en pratique tout ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, ne plus juger, traiter les autres comme ils devraient être traités, prier. Priez avec foi. Priez en étant convaincu que votre Père écoute. Et soyez, et ça c'est extraordinaire, et soyez vous-même, par ce simple fait de prier, transformé par la prière. Parce que quand on prie, on s'approche du cœur de Dieu, de sa personne, de ce qu'il est par nature. Et vous le savez qu'il est amour, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Donc l'enseignement de Jésus sur la prière, donc sur la requête, nous emmène au plus profond de la nature de notre vie, dans le royaume de Dieu, comme il est présent actuellement sur la terre, imparfait, pas encore installé, mais déjà présent au travers de nos vies. Enfin, en tout cas, ça devrait l'être. Et cette vie s'exprime aussi bien dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire humaine, que verticale. Donc la nature même de ce que Dieu accomplit dans nos vies souligne que nous ne sommes jamais seuls dans notre relation à l'autre. Et ça, je pense que nous ne le savons pas, que nous l'avons oublié, que nous n'avons pas compris. Nous ne sommes jamais face à face. Il y a toujours le Christ entre moi et l'autre. Il y a quelques années de ça, un ami, qui avait pourtant 30 ans de plus que moi, j'avais passé l'après-midi avec lui, il se définissait comme agnostique, il franc-maçon, enfin, tout, voilà. Et en quittant ce jour-là, il m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Il dit, je ne crois pas en Dieu, mais je sais que quand tu rentres chez moi, tu n'es pas tout seul. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Quand je te parle, je sais que nous ne sommes pas tout seuls. Mais je ne crois pas en Dieu, hein. C'est toujours comique ça. Mais je sais que tu n'es pas tout seul. Je triche. Hein. Vous pensez que je suis seul, mais c'est valable pour vous aussi, hein, petit chou. Donc aucune de nos relations nommait la présence et l'action de notre Dieu. Aucune. Donc pour être tout à fait clair, on a un scoop ici. Hein. Je ne pense jamais simplement à ce que je vais faire de vous, si je peux dire ça comme ça, à ce que je vais faire avec vous ou à ce que je vais faire pour vous. Je pense à ce que nous, Dieu et moi, allons faire de vous, avec vous et pour vous. Et on n'est parfois pas d'accord, ça arrive. Et de la même manière, je ne pense jamais à ce que vous allez faire de moi, ça y vaut peut-être mieux pas, me faire ou faire avec moi, mais à ce qui sera fait par vous et Dieu vis-à-vis de moi. Voici comment Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand qui est mort dans un camp de concentration nazi, voilà ce qu'il dit dans son livre intitulé « De la communauté ». Il parle de l'Église, en fait. L'Église, ce sont les membres. Nous sommes des pierres vivantes. Ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Parce que la communauté chrétienne est exclusivement fondée sur le Christ, celle-ci n'est pas une réalité purement psychique, autrement humaine, autrement dit humaine. En cela, elle diffère absolument de toutes les autres communautés. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal que nous devons accomplir, c'est plutôt une réalité créée par Dieu, en Christ, à laquelle nous pouvons participer. Au plus clairement, nous apprenons à reconnaître que le fondement, la force et la promesse de notre communauté est en Jésus-Christ seulement. Au plus sereinement, penserons-nous à notre communauté, prierons-nous pour elle et aurons-nous de l'espérance pour elle. Donc d'après lui, la qualité d'amour d'une communauté priante est radicalement différente de la forme la plus élevée d'amour humain. Alors pourquoi est-ce qu'il ose dire ça ? C'est parce que l'amour humain aime l'autre pour lui-même. Tandis que l'amour que Dieu place en nous l'aime à cause du Christ aussi. Parce que le Christ a donné sa vie pour cette personne-là aussi. Et c'est ce qui permet à Jésus de dire, vous devrez même apprendre à aimer vos ennemis. Parce que je vais donner ma vie pour cet homme ou cette femme qui vous pollue la vie, qui vous pose des problèmes. Autrement dit, si je ne prouve pas d'amour pour quelqu'un, ça vous arrive? Et ce, pour un million de bonnes raisons qui me sont personnelles, c'est tout à fait clair. Je ne l'aimerai pas du tout. Et cette personne me restera indifférente. Et là, normalement, on entend résonner une autre phrase, un autre enseignement du Christ. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts, qui étaient très mal vus, parce qu'ils collaboraient avec les Romains à l'époque, qui étaient terriblement mal vus par les Juifs, les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Les collecteurs d'impôts ont une famille, des enfants, et ils s'aiment. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Aimez ceux qui vous aiment. Ça, c'est un peu normal. Commencez à aimer ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui vous détestent. Nous n'arriverons jamais à aimer nos ennemis, ou plus humblement ceux pour lesquels nous n'éprouverons rien ou pas grand-chose, en comptant sur notre seule capacité humaine à aimer. Vous n'y arriverez pas, je n'y arriverai pas. Encore une fois, j'ai essayé, croyez-moi, ça ne marche pas. Nous n'y arriverons pas, et c'est bien ce que Jésus veut nous dire. Votre amour seul, nous dit-il, est trop limité. Vous avez besoin du moyen, de celui de Dieu en plus. L'amour psychique, et je termine vraiment, je vous rassure, l'amour psychique recherche le contact direct avec l'autre personne, l'amour humain j'entends, sans cette médiation de Dieu, car il ne l'aime pas dans sa liberté, mais comme quelqu'un qui est lié à lui. Et cet amour-là éprouve le besoin d'être irrésistible, on se sent toujours obligé d'aimer plus pour ne pas être largué. Il a besoin de régner, de diriger, d'imposer, même si on ne s'en rend pas compte. L'amour humain n'attache que peu d'importance, en fait, à la vérité avec un grand V. Il rend la vérité relative, vu que rien, même pas la vérité elle-même, ne doit venir se mettre entre lui et la personne aimée. Mais mes amis, c'est l'amour que pratiquent la plupart des gens sur cette planète, mais cet amour-là est un amour malade. Il est un amour malade de quoi ? De l'absence de Dieu. Bon, cette forme d'amour, qui est, je pense, la plus répandue, la vérité doit céder au désir. La vérité, ça ne compte pas, c'est mon désir de l'autre qui compte. Et c'est ça, en substance, qui conduit la communauté humaine. Et on a vu ce que ça donne, même quand on est habité des meilleures intentions du monde. Par contraste, dans l'amour du royaume de Dieu, le Christ se tient entre celui qui aime et ceux qui l'aiment. Et parce que Christ se tient entre moi et les autres, j'ose ne pas désirer faire communauté avec eux, autrement dit, je renonce à la toute-puissance dans la vie de l'autre. Je ne vais pas en faire ce que moi j'ai envie d'en faire. Ça signifie, et ça va être difficile, hein, mais il va falloir le vivre, enfin essayer en tout cas. Et la communauté chrétienne est là aussi, l'Église est là aussi pour que nous puissions nous exercer. C'est un laboratoire, hein. Exercez-vous avec les autres, pas avec moi, si c'est possible, parce que moi je suis très occupé. Donc ça signifie pratiquement que je dois laisser l'autre libre de toute tentative de coercition, de régulation ou de domination par mon amour. Je l'aime, donc j'ai le droit d'imposer, de cadrer. Non. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas pour Dieu en tout cas. Cet amour spirituel dont Jésus nous parle, en fait, va parler de Dieu, de ce quelqu'un que j'aime. Il va parler à Dieu de ce quelqu'un que j'aime. Plus qu'il ne parlera à un frère de moi, autrement dit, je dois être présent à mon ami, à celui que j'aime, mais je dois surtout être présent pour lui dans ma vie relationnelle avec Dieu. Donc, si vous m'aimez, question rhétorique, je ne demande pas de réponse. Si vous m'aimez, comme je vois de l'amour dans votre regard, j'ai besoin que vous soyez là pour moi, que vous m'écoutiez, que vous preniez soin de moi dans tous les domaines possibles. Mais j'ai aussi et surtout besoin que vous priez pour moi, que vous soyez prière pour moi. L'amour du royaume, c'est que le chemin le plus direct vers les autres est toujours celui de la prière adressée à Dieu. Et que l'amour pour les autres est entièrement dépendant de la vérité qui est révélée par le Christ. Et tel que l'Esprit Saint qui vous était donné à votre nouvelle naissance, vous le révèle. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne prenons pas ce chemin, et Jésus s'adresse à des gens qui sont dans une communauté de foi, hein, des gens qui croient en Dieu. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas simplement les gens qui ne croient pas en Dieu. On peut croire en Dieu et ne pas fonctionner en termes d'amour comme Dieu le conçoit. Donc si nous n'aimons pas, avec Dieu présent dans cette relation aux autres, nous allons, d'une manière ou d'une autre, croyez-moi, dominer l'autre. Nous allons nous en servir afin d'assouvir nos besoins. Et nous allons même parfois parler de Christ à ceux que nous aimons, ceux que nous côtoyons, que l'on aime et qui ne connaissent pas Dieu. Nous allons même leur parler de Dieu parce que nous les aimons plutôt que de parler d'eux à Dieu parce que lui les aime d'un amour infini. Je terminerai simplement en vous disant ceci, si ça peut vous aider. Ça va peut-être faire peur, mais c'est vrai. À titre personnel, je ne mouille que moi en disant ça forcément. À titre personnel, c'est par amour que j'ai commis les plus grandes erreurs de ma vie. Parce que je n'avais pas plutôt compris qu'il fallait laisser Dieu être Dieu dans ma vie et surtout dans celle des autres. Autrement dit, notre vie tout entière doit devenir prière ou, d'une certaine manière, elle ne sera tout simplement pas, en tout cas ne sera pas une vie comme Dieu attend que nous la vivions. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.